السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن شاء الله aujourd'hui je voudrais traiter d'une maladie dont Allah a beaucoup parlé dans son livre. Cette maladie, c'est une maladie très grave, plus grave que le cancer. Car si tu as le cancer, tu meurs, c'est ce que tu risques. Mais la mort, ce n'est pas un péché. Et peut-être que le cancer, il va te faire souffrir, et ce sera un moyen par lequel Allah il va te purifier de tes péchés. Moi, la maladie dont je vais parler, ce n'est pas une maladie du corps, c'est une maladie du cœur. Et si tu es touché par cette maladie, ce qui peut t'arriver, c'est quoi? C'est l'enfer. Donc, la maladie dont je vais traiter aujourd'hui, elle est plus grave que le cancer. Cette maladie aussi, elle est plus grave que les maladies du corps. Pourquoi? Parce que l'être humain, il peut en être atteint et il ne se rend pas compte. Hein? Lorsque quelqu'un il est touché par une maladie, il sait qu'il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se guérir. Il fait des doigts, il prend des médicaments. Mais si tu as une maladie et tu ne sais pas que tu en es atteint, alors tu ne chercheras même pas à t'en guérir. Alors, quelle est cette maladie? قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Donc Allah dit ce qui signifie: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont atteints par cette maladie. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Ainsi sont ceux qui vivent dans l'insouciance. Et cette maladie-là, c'est quoi? C'est Al-Rafla. L'insouciance. Donc regardez dans ce verset, hein, Allah Azza wa Jal, il nous met en garde. Et il dit que celui qui a cette maladie de l'insouciance, ça l'amène où? En enfer. Wal'ayyadu billah. Dans ce verset, il y a quelque chose d'important à noter, à relever. C'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal, il a comparé celui qui est insouciant à qui? Aux animaux. Pourquoi? Parce que comme vous savez tous, mes chers frères, les animaux, ils n'ont pas de raison. Ils vivent suivant leurs instincts. L'instinct de manger, l'instinct de survie, l'instinct de se reproduire. Hein? Mais eux, ils n'ont pas de raison. Et d'ailleurs, le jour du jugement dernier, le mécréant, qu'est-ce qu'il va dire? وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Et le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran que le mécréant, il dira, le jour où le mécréant dira, si seulement je ne pouvais être que poussière. Pourquoi poussière? Parce que le jour du jugement dernier, quand tous les hommes ils vont être réunis, Allah il va réunir tous les animaux. Et il va rétablir la justice parmi les animaux. À savoir que si un animal, par exemple un bélier, il avait donné un coup de corne à un autre, injustement, Allah il va dire à celui qui avait reçu le coup de bélier, rend le coup. Et une fois qu'Allah, regardez, subhanallah, de par sa justice, il aura rétabli la justice parmi les animaux, est-ce qu'ils ont l'enfer ou le paradis? Non, car ils n'ont pas de raison. Et Allah il va leur dire, devenez poussière. Et donc ce jour-là, le mécréant, lorsqu'il va savoir que lui, pendant toute sa vie, il a négligé Allah, et que ce jour-là, avant d'être jugé, il sait que lui ne l'attend que l'enfer, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, si seulement moi aussi je pouvais être que poussière comme les animaux. Mais lui, les êtres humains, ou ils ont suivi la religion, et donc ils entreront au paradis, ou alors s'ils l'ont négligé, ou ils s'en sont détournés, ils iront en enfer. Et donc là on voit bien ce qui différencie les animaux des êtres humains, c'est la raison. Et comme toi Allah t'a donné la raison, et t'a donné le libre arbitre de choisir entre la vérité et le faux, tu dois vivre en utilisant cette raison. Et celui qui est insouciant, il n'utilise pas sa raison. Il vit comment? En suivant ses instincts, en suivant ses passions, en suivant ses désirs. Et nous, aujourd'hui, si on regarde le monde dans lequel on vit, les gens, aujourd'hui, tu lui dis, ben réfléchis, est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas? Il ne veut pas réfléchir, il dit, je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas. Hein? C'est quoi qui l'intéresse? Assouvir ses désirs, gagner de l'argent pour assouvir ses désirs. Donc celui-là, comme il dit Allah, il est comme les animaux. Mais il est plus égaré encore. Pourquoi? Parce que les animaux, c'est normal qu'ils n'utilisent pas leur raison, car ils n'en ont pas. Or, l'être humain, il a une raison. Et il doit l'utiliser. Donc s'il ne l'utilise pas, il est pire. En réalité, il est pire que les animaux. Parce que le jour du jugement dernier, comme je vous l'ai dit, les animaux, ils vont devenir poussière. Toi, si tu n'as pas utilisé ta raison, et tu t'es pas posé les vraies questions, et tu as vécu dans l'insouciance, tu t'es pas posé les vraies questions. Est-ce que Allah, il existe? Est-ce que le jour du jugement dernier, il existe? Hein? Est-ce que ça c'est la vérité ou c'est faux? Est-ce que, etc., etc., tu ne te poses pas les questions et tu vis simplement comme un mouton en suivant la masse? Il faut consommer, il faut assouvir ses désirs, alors tu es comme un animal et tu es dans l'insouciance. Le deuxième verset où Allah il nous parle de cette maladie, قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Donc Allah dit ce qui signifie, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, yani, ils sont contents de dunya et ils ne s'intéressent qu'à dunya, ils ne suivent que dunya, et ceux qui sont inattentifs à nos signes, qui sont insouciants, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils commettaient. Et donc là encore, Allah Azza wa Jal, il parle de cette maladie qui est le rafla, ou la ikahumul rafilun. Non, il dit, wahum ani ayatina rafilun. Hein? Et en fait, il parle de l'insouciance par rapport au fait que les gens, ils ne vivent que pour dunya et ils ont oublié l'akhira. Et ça, c'est une forme d'insouciance qui est grave. C'est-à-dire que toi, tu vis, tu sais que tu vas être ressuscité après ta mort, tu vas être jugé, mais dans ta vie de tous les jours, tes soucis, ton temps, tes envies, tes objectifs, ils ne sont que dans le dunya. Donc toi aussi, tu es touché par cette insouciance. Voilà, ayadou billah. Hein? Donc regardez, on a parlé de l'insouciance par rapport au fait de ne pas utiliser sa raison, de ne pas se poser de questions. Et là, c'est l'insouciance par rapport au fait de quoi? De n'être occupé, préoccupé, de ne viser que des objectifs dunyaoui, des objectifs de ce bas monde. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous parle également de l'insouciance. قال تعالى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Et il dit, Azza wa Jalla, ce qui signifie, cependant beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Et là c'est quoi? C'est l'insouciance par rapport au miracle d'Allah Azza wa Jalla. Car en vérité, si on réfléchit, on est entouré par les miracles d'Allah. Mais nous sommes insouciants et on ne se rend pas compte. Le fait que nous soyons en vie, que nous vivons, c'est un miracle. Hein? Et nous, on est inattentifs. D'ailleurs, ce verset, « وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ » il est dans Surat Yunus. Et il vient à la fin de quoi? Il vient à la fin du récit où Allah Azza wa Jal, il parle de Moussa alayhi salam et de Pharaon, le jour où Allah Azza wa Jal, il a fendu la mer et qu'il a permis à Moussa de traverser la mer et qu'il a fait 12 chemins pour les 12 tribus d'Israël. Hein? Et lorsque les enfants d'Israël se sont engagés dans le chemin, vous connaissez l'histoire, Pharaon il l'a suivi et la mer elle s'est refermée sur Pharaon et ses armées et son armée. Et Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, il a dit à la mer de recracher le corps de Pharaon afin que les enfants d'Israël voient que ça y est, il est mort et qu'ils sont en sécurité. Et comme ça, il va rassurer les enfants d'Israël. Et il dit, Allah Azza wa Jal, qu'il fera de Pharaon un exemple jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, si vous allez au musée du Caire, hein, il y a la momie de Mineptah qui est conservée, et c'est ce Pharaon en question, dont il est question dans le Coran. Et d'ailleurs, si vous voyez son visage, subhanallah, il est rouge. On dirait qu'il est en train de brûler en enfer. Voilà, yadou billah. Et donc, regardez, ça c'est un miracle. Et nous, comme je disais, on est entouré de miracles, mais on est inattentif. On ne s'en rend pas compte, on est habitué. Le soleil se lève tous les matins, il se couche tous les soirs, et ça, on est habitué par ça. Hein. Par contre, s'il y a un nouveau gadget, une nouvelle technologie qui sort, on est émerveillé. Subhanallah. On est émerveillé par des gadgets, que maintenant ta voiture, tu peux te garer avec un bip, je ne sais pas quoi. Par contre, que le soleil se lève tous les jours et il se couche tous les jours, on n'est pas émerveillé par ça. Ça, c'est un grand miracle. Hein? Est-ce que quelqu'un il peut créer un soleil ou un système solaire? Regardez le corps humain, tous les miracles qu'il y a dans le corps humain. Hein? Et nous, on est insouciant, on est inattentif à tout ça. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla, il parle également de l'insouciance. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Il dit ce qui signifie, ils connaissent un aspect de la vie présente tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Par rapport à l'au-delà, ils sont insouciants. Et qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ce verset, il est dans Surat al-Rum. Où Allah Azza wa Jalla, dans Surat al-Rum, il a annoncé aux musulmans que, à leur époque, où il y avait les Perses et les Romains qui étaient en conflit, les Perses, ils avaient fait des guerres contre les Romains et ils avaient gagné. Et Allah Azza wa Jalla, il leur a annoncé dans le Coran aux musulmans que d'ici une dizaine d'années, les Romains, ils allaient avoir la victoire. Et c'était une manière de dire aussi aux musulmans qu'il fallait plutôt être du côté des Romains, car les Romains, ils pratiquaient le christianisme, alors que les Perses, كانوا على الدين المجوسية وهي عبادة النار. Ils étaient des adorateurs du feu. C'était des zoroastriens. Hein, leur religion consistait à adorer le feu. Donc c'était des païens. Et donc le musulman, l'opinion du musulman à l'époque, le Coran venait dire de plutôt soutenir les Romains que plutôt ceux qui adorent le feu. Et donc lorsque ce verset est descendu, c'était suite à une défaite des Romains et les musulmans, ils étaient tristes. Et le Coran, il est venu annoncer aux musulmans, vous inquiétez pas, les Romains, dans quelques années, ils auront la victoire. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc ça nous revient à l'insouciance. C'est quoi l'insouciance? C'est qu'en fait, nous, des fois, on juge des situations, on porte un jugement sur des choses et on oublie qu'il y a Allah qui est au-dessus de tout. Par exemple, on dit, voilà, c'est impossible, lui, il est trop faible, il ne pourra pas gagner. Ah oui, mais combien de fois des gens qui étaient faibles, Allah les a renforcés, sont devenus forts, ils ont gagné. Et combien de fois ceux qui étaient forts, et personne ne les voyait perdre, ils ont perdu. Combien de fois, par exemple, on a dit à quelqu'un, toi il te reste 2 mois à vivre, l'un des grands spécialistes dans les hôpitaux, et il a vécu 20 ans en bonne santé. Et quelqu'un lui dit, toi, t'es en parfaite santé, t'as rien. 2 semaines après il meurt, personne ne sait pourquoi. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est inattentif. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Hein, ils sont, ils connaissent un aspect de la vie présente, mais ils sont inattentifs à l'au-delà. C'est-à-dire que faut jamais perdre de vue que Allah est au-dessus de tout et que Allah fait ce qu'il veut. Celui qui est faible aujourd'hui, demain il peut être fort, et celui qui est fort aujourd'hui, demain il peut être faible. Tout est entre les mains d'Allah. Il faut jamais l'oublier. Et enfin, je cite un dernier verset qui est en rapport avec l'insouciance, mais dans le Coran il y en a plusieurs. Moi j'en ai sélectionné quelques-uns. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكون من الغافلين. Donc il dit ce qui signifie, subhanahu wa ta'ala, et invoque ton Seigneur en toi-même, par humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Et donc, et là, c'est quoi? C'est l'insouciance par rapport au dhikr. Et donc, ça nous montre l'importance que la personne, il faut que tout le temps, elle soit avec Allah. Et c'est pas seulement, elle vient à la mosquée, elle est avec Allah, quand elle est avec Allah, parce que des fois, même quand on vient à la mosquée, on est préoccupé par des soucis de la vie d'ici-bas. Par contre, dès qu'on sort de la mosquée, ça y est, c'est fini, on a tout oublié. Ou alors, quand on est au travail, on a tout oublié. Non. L'insan, il fait du dhikr, il se rappelle. Hein? Il invoque Allah. Notamment les invocations du matin et du soir. Quand il se lave les mains et avant d'aller aux toilettes, en sortant des toilettes. Hein? Quand il rentre chez lui, quand il sort chez lui, quand il rentre à la mosquée, quand il sort à la mosquée. Tout le temps, dans le bus, dans le RER, dans la voiture. Tout le temps, il faut que la personne, elle invoque Allah. Elle se rappelle Allah. Elle se rappelle le nom d'Allah. Elle évoque le nom d'Allah. Hein? Et il ne faut pas être inattentif à cela. Donc, l'insouciance, comme j'ai dit, c'est une maladie du cœur. Et c'est une maladie dangereuse, pourquoi? Parce que lorsque tu es insouciant, alors tu oublies. Et lorsque tu oublies, ou plutôt je dirais lorsque tu es insouciant, ça veut dire que tu t'es détourné des choses qui étaient importantes pour toi. Et donc lorsque tu te détournes, quand tu vas commencer à te détourner pendant un certain temps, tu vas complètement oublier et tu vas tout oublier. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es insouciant et tu t'es détourné d'Allah, alors c'est qui vient ? C'est Shaytan. Shaytan, lui, tout le temps il attend. Il est près de ton cœur. Dès que ton cœur il oublie d'évoquer Allah ou tu as des objectifs qui ne sont pas Allah, etc., alors Shaytan, lui, vient, il rentre et il s'occupe. Et lui, il va s'occuper de toi. Et il va te trouver des occupations. Et il va te trouver des objectifs. Hein ? Et donc, quand tu es comme ça, tu arrives donc jusqu'à te à oublier totalement Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, regardez ce que Allah il nous dit. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. Et quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ça veut dire que dès que tu oublies, tu es dans cette insouciance, alors c'est qui vient ? C'est Shaytan. Et donc Shaytan, lui, va te donner des objectifs, il va te donner des occupations jusqu'à ce que tu vas oublier totalement Allah. Donc on voit pourquoi l'insouciance, c'est dangereux. Alors, moi, l'insouciance dont j'ai cité là, c'est une insouciance d'un degré fort. Hein, puisque dans les versets que j'ai cités, souvent ça fait référence à quoi ? Aux gens qui ne sont pas musulmans et qui sont dans l'insouciance suprême. Mais nous aussi, les musulmans, on est touchés par cette insouciance. Et je vais donner des exemples. L'insouciance avec Allah. Et l'insouciance avec Allah, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, on ne cherche pas à connaître qui est Allah. Allah, Azza wa Jal, il nous a révélé 99 noms. Et donc celui qui veut connaître Allah, il faut qu'il apprenne ces noms, qu'il les comprenne. Hein ? Et nous aujourd'hui, ces noms-là, on les a délaissés. On les oublie. On ne cherche pas à les apprendre. Ce n'est pas une forme d'insouciance envers Allah, ça ? Et d'ailleurs, je précise, Allah, il nous a révélé 99 noms, il en a plus, mais il nous en a révélé que 99. Et il nous en a révélé pourquoi ? C'est une manière de connaître Allah. Donc toi, celui que tu adores, tu n'es pas censé le connaître. Celui que tu aimes, tu n'es pas censé le connaître. Regardez aussi Allah Azza wa Jalla, il a des droits. Allah Azza wa Jalla, il a des droits. Le prophète, Aïssa Tussam, il dit « Haqqullah ala al-ibad an ya'budu wa la yushriku bi shay'a » Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est quoi ? C'est de l'adorer sans rien lui associer. « An la yushriku bi shay'a » Et shirk, il est moujoud aujourd'hui dans notre communauté. Même chez les gens qui viennent à la mosquée. Je vais donner un exemple tout bête. La main de Fatma, vous voyez des gens, ils ont la main de Fatma dans leur voiture, en décoration, etc. Hein, il garde la voiture dans le parking et il vient adorer Allah. Ça, c'est du polythéisme. Shirk. Hein, c'est pas une forme d'insouciance. Pourquoi on ne connaît pas les droits d'Allah, subhanallah ? Tu rentres dans une entreprise, tu travailles, tu connais les droits du patron, tu connais les droits salariales, tu connais tes droits sociaux, les droits de la CAF, la sécurité sociale, tout ce que tu veux. Là, jamais tu dis que tu n'as pas le temps de connaître, etc. Et les droits d'Allah, on ne les connaît pas. Hein ? Et donc il y a aussi le fait d'être insouciant avec Allah dans le sens de ne pas le remercier, comme il se doit. Hein, imagine-toi, par exemple, quelqu'un il est dans le besoin, tu lui fais quelque chose, tu lui donnes de l'argent ou tu le nourris, il ne te remercie pas. Tu vas dire, oh, mais c'est quoi ce comportement ? Hein ? Eh bien regarde, Allah il t'a donné la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que la vie ? Allah il t'a donné la vie, et est-ce que tu le remercies comme il se doit ? Est-ce que nous le remercions comme il se doit ? Donc c'est pas une forme d'insouciance ça ? Également l'insouciance avec le Coran, le livre d'Allah. Dans le Coran, c'est Allah qui parle. Subhanallah. Et est-ce que nous, on se comporte avec ce livre comme on devrait se comporter ? Est-ce qu'on l'ouvre moins une fois par jour ? Est-ce que quand on le lit, on essaie de comprendre ce qui est dit ? Hein, comment ça se fait que on peut lire le Coran, on ne comprend pas pendant des années, et jamais on se pose la question de ce que ça veut dire ? Imagine demain, il y a quelqu'un d'important, là, le maire, il rentre à la mosquée, il parle, et on ne comprend pas ce qu'il dit. On va vouloir savoir qu'est-ce qu'il a dit. Hein ? Parce qu'on va lui accorder de l'importance, on va dire, ah, c'est le maire quand même, il est venu, on veut savoir ce qu'il a dit. Et Allah, ce qu'il a dit, tu n'as pas envie de savoir. Hein, ce n'est pas une forme d'insouciance, ça, avec le livre d'Allah. Également avec le prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hein ? On est insouciant avec le prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au point que chez certains, la sunna, qu'est-ce que ça signifie la sunna pour eux ? Pour eux, la sunna, c'est ce qui est surérogatoire, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Et ce qui est obligatoire, c'est ce qui est dans le Coran. Il y en a, c'est comme ça qu'ils comprennent la sunna. Sunna, c'est quelque chose de pas obligatoire, et ce qui est obligatoire, c'est dans le Coran. Or ça, c'est faux. C'est vrai uniquement dans la science de la jurisprudence. Fi ilm al-fiqh, kalimat sunna, dans la science de la jurisprudence, c'est vrai. Cela signifie un acte qui n'est pas obligatoire, mais que si tu le fais, tu es récompensé, et si tu ne le fais pas, tu n'es pas châtié. C'est vrai, dans la science de la jurisprudence. Mais la sunna, de manière générale, ça signifie la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses surérogatoires, il y a des choses obligatoires, il y a des choses interdites, il y a des choses conseillées, il y a des choses déconseillées, et ainsi de suite. Hein? Et d'ailleurs, Allah azza wa jal, ne dit-il pas « Wa ma atakumu rasul fakhudu » Ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ne dit-il pas Allah Azza wa Jalla lorsqu'il parle de son prophète ? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il dit que prenne garde. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie que prenne garde ceux qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire au commandement du prophète, que ne les attienne une tentation, un trouble, ou que ne les touche un châtiment douloureux. Donc si ce que le prophète il nous disait, on fait ce qu'on veut, et ce qu'on veut, on ne le fait pas, alors Allah ne va pas nous menacer d'un châtiment douloureux. Hein? Et sur ce verset-là, la fitna, l'imam Ahmed il a une parole célèbre qui dit, est-ce que tu sais ce que c'est que la fitna dans ce verset? Il dit, c'est le shirk. C'est-à-dire que si tu ne suis pas la voie du prophète Mohammed, alors ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas tomber dans le polythéisme. Et on sait tous que le polythéisme, c'est le pire des péchés, c'est le seul que Allah ne pardonne pas si tu meurs dans cet état. Et donc, pour terminer sur cette question de la signification de la sunna, je vais l'illustrer d'un exemple. Là, on vient de prier la prière de Salat al-Maghrib, qui est composée de 3 rak'at. Est-ce que j'ai le droit de faire 4 rak'at? Non. Est-ce que j'ai le droit de faire 2 rak'at? Faire 3 rak'at, c'est obligatoire, on est tous d'accord. Hein? Les 3 rak'at de Salat al-Maghrib, c'est où que c'est indiqué? Dans le Coran ou dans la Sunna? C'est dans la Sunna. Donc voilà une preuve que dans la Sunna du prophète, il y a des choses qui sont obligatoires. Et donc voilà, regardez la forme d'insouciance terrible avec le prophète, c'est que sa Sunna n'a pas de valeur. Hein? Oh, c'est Adihar Sunna. Hein, on entend ces paroles-là. C'est grave. C'est une forme d'insouciance avec le prophète. Regardez les gens, parce que nous, c'est notre exemple. C'est la créature qu'on doit le plus aimer. Après, hein, celui qu'on aime le plus, c'est Allah, mais après Allah, parmi les créatures, celle qu'on doit le plus aimer, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez quand des jeunes, ils aiment un footballeur, une star de rock, ils veulent tout le faire comme lui. Ils connaissent tous sa vie, ils achètent ses t-shirts, ils vont, s'il fait un concert ou s'il y a un match, il est prêt à dépenser des sommes d'argent, etc. Hein? Et nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est négligent comme ça avec lui. Hein? Regardez ces gens-là, une star du rock, wa billahi alaykoum, ou un footballeur. Qu'est-ce qu'il apporte aux gens dans leur vie? Il ne leur apporte rien. Si, dépenser du temps et de l'argent. Hein? Regardez les fans de Johnny Hallyday, par exemple. Il y en a toute leur vie, des crédits, etc. Ils divorcent avec sa femme pour Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il lui apporte, Johnny Hallyday? Il ne lui apporte rien. Ni fait dunya, ni fait l'akhira. Car ni fait dunya, il ne le rend pas plus intelligent, il ne le rend pas en meilleure santé, il ne lui montre rien, si ce n'est dépense ton argent, comme un mouton, et fait dunya, et fait l'akhira, alors encore moins. Nous, le prophète Mohammed, regardez, il nous apprend comment nous comporter. Hein? La sunna du prophète, ça nous montre comment nous comporter dans ce bas monde, avec tout le monde, avec les animaux, avec ta femme, avec toi-même, avec ton Seigneur, comment adorer Allah. Et la science du prophète Mohammed, ça te sert dans le dunya et dans l'akhira. Et nous, celui qui est venu, que Allah Azza wa Jalla a choisi pour nous montrer ça, on est juste là à dire, non, ça c'est juste sunnah, c'est tout. C'est pas de l'insouciance, hein, de la négligence, du manque de respect. Un autre type d'insouciance avec la religion, dans le sens où on ne se pose pas de questions à connaître le halal et le haram. Une insouciance aussi avec la religion, dans le fait que tous on constate les difficultés, que ce soit à titre individuel ou collectif dans la société que les musulmans y traversent. Par contre, qui sont les gens qui vont rechercher les solutions aux problèmes dans la religion. Car tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie, il y a une solution dans la religion. Et nous, on est tous là à se lamenter, mais qui sont ceux qui vont rechercher les solutions? Ça, c'est une forme d'insouciance qui est terrible. Également une forme d'insouciance avec Shaytan. Inna Shaytan lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Le diable est un ennemi déclaré pour vous, prenez-le donc comme ennemi. Hein? Et donc nous on est insouciant avec le Shaytan dans le sens que on ne se méfie pas de lui, de ses ruses, du fait qu'il cherche à nous égarer. Hein? Par exemple, il y a beaucoup de du'a à faire pour se préserver. Pour se préserver du diable. Et on ne les connaît pas, on ne les apprend pas à nos enfants. Même nous, on n'y prête pas attention. Hein, par exemple, on sait tous que le diable, quand les gens ils sont accrochés à la religion, qu'est-ce qu'il fait? Quand il n'arrive pas à leur faire faire des péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de semer la zizanie entre les gens. Et regardez, partout où vous allez, vous trouvez ces problèmes-là. Les gens les plus pratiquants, c'est parmi eux que tu trouves le plus d'animosité. Subhanallah. Parce que Shaytan n'y dort pas. Et on le sait ça. Pourquoi on n'essaie pas de se préserver? Donc c'est une forme d'insouciance par rapport à Shaytan. Prendre conscience aussi que Shaytan, il travaille et il a des partisans parmi les djinns et parmi les hommes. Pourquoi vous croyez qu'on attaque l'islam comme ça aujourd'hui dans la société? Hein? Ou une partie infime de la société, elle fait un travail de matraquage monstrueux pour donner une mauvaise image de l'islam à tout le reste. Hein? Pourquoi? Parce que Shaitan, il travaille. Pourquoi on ne fait pas ça sur le judaïsme ou sur le christianisme, je ne sais pas. Regardez par exemple, je vais prendre l'exemple du niqab. Le niqab. Alors, les gens, ils vont dire, je crois qu'on est dans une société libre, où tu as le droit de choisir de faire ce que tu veux. Même si tu considères que, je ne veux pas rentrer dans un débat religieux, mais subhanallah, les politiques que tu entends à la télévision et qui disent non, c'est le refus de vivre ensemble, etc. Et les dames qui vont au couvent et qui se retirent. Ou alors, par exemple, dans certaines religions, il y a des gens qui font le vœu de ne pas parler, ils ne parlent pas. Ils vivent comme des vies d'ermites, d'ascètes, ils se retirent dans un couvent, dans une maison, ils ne parlent à personne. Ils vivent entre eux. Pourquoi ça dérange personne, ça? On peut trouver ça aussi extrême. Et pourquoi l'on dit c'est la liberté? Et pourquoi quand c'est les musulmans, c'est toujours quelque chose qui ne va pas? On comprend que ça peut choquer le niqab, mais a priori, si on dit qu'on est pour la liberté, eh ben laisse-la faire ce qu'elle veut. Pourquoi celle qui se rase la tête, qui se fait du tatouage, qui se met à moitié nue, c'est la liberté, et celle qui se couvre, elle n'a pas le droit? Au nom de quoi? Au nom de quel principe républicain? Au nom des droits de l'homme, tout ce que vous voulez, au nom de quoi? Moi j'aimerais qu'on m'explique. Je dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je suis pas plus bête non plus. J'aimerais qu'on m'explique rationnellement au nom de quel principe, appelez ça comme vous voulez, principe humain, républicain, ce que vous voulez, au nom de vos principes que vous prenez, vous allez interdire à une dame de se couvrir le visage si elle en a envie. Parce que bien sûr aussi on fait croire qu'elles sont forcées alors qu'on sait tous que c'est pas le cas. Dans certains pays musulmans peut-être, je veux bien, mais ici en France, une jeune fille qui a grandi ici, qui a été à la fac et qui du moins décide de se mettre le niqab, ça là on ne l'a pas forcé. Et même souvent, on trouve que ses parents ils sont pas d'accord, ça les dérange. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein, vous qui êtes musulmans, vous connaissez ça. Mais bien sûr on essaie toujours de tourner les choses. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique. Et pourquoi il y a tout ça? Parce que Shaytan il est là. Il dort pas Shaytan. Et donc même nous en tant que musulmans, il faut qu'on soit avertis que ce qui se passe, c'est Shaitan qui fait son travail. Et donc il ne faut pas se laisser aller à quoi? À être négatif, à être pessimiste, à dire oh là là, tout le monde nous tombe dessus, etc. Non. Et regardez, subhanallah, il y a un sondage qui est sorti, 52% des Français pensent que l'islam c'est pas un problème pour la France. Alors subhanallah, dans les médias, on est les maudits, tout est fait pour salir l'islam, hein, etc. Et pourtant, tu as 52% des Français qui pensent que c'est pas un problème. Alors moi je trouve que c'est positif. Vu le climat médiatique, il devrait y avoir 80% des Français qui devraient trouver que l'islam c'est une catastrophe pour la France. Hein. Et pourtant, 52% trouvent que c'est pas un problème. Et dans les 48% qui restent, vous en avez qui se prononcent pas, il y a d'autres qui sont négatifs, une vingtaine de pourcents. Mais en réalité, c'est comme l'histoire des minarets. Les gens où ils ont voté le plus en Suisse contre les minarets, c'est les provinces où il n'y a pas de musulmans. Ce qui prouve bien que tout ce qui est négatif sur l'islam, les opinions négatives sur l'islam, c'est qui? C'est par des gens qui ne connaissent pas l'islam. Et donc, ils ne sont que victimes de la manipulation, et ils ont fondé leur jugement sur quoi? Sur des préjugés. Donc nous, il ne faut pas qu'on soit bête, il ne faut pas qu'on soit pessimiste, il faut qu'on se dise ce qui nous arrive, c'est normal, parce que nous d'un côté on dort, nous d'un côté aussi on est mal éduqué, nous d'un côté aussi on est endormi, on ne pratique pas notre religion comme il faut, et on fait tout pour nous salir, et nous on ne fait rien pour informer. Hein, donc nous aussi on a une responsabilité. Et moi je suis sûr que si les musulmans qui s'accrochent à leur religion, ils essayent de travailler ensemble, hein, ils essayent de s'éduquer, de s'instruire dans leur religion, et bien vous verrez que les opinions très vite changeraient. Et comme j'ai dit, n'oubliez pas qu'Allah est au-dessus de toute chose. Et que vous verrez que les médias, ça a ses limites. Et d'ailleurs, on regarde l'islam aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière, l'islam il n'a fait que avancer et progresser. Hein? Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Hein, il est celui qui a envoyé son prophète avec la religion de droiture et de vérité pour la faire triompher sur toutes les autres religions. Et Allah suffit comme témoin. Hein? Donc l'insouciance, cette maladie grave, en réalité c'est une arme de Shaitan. Et il l'utilise pour détourner les gens de ce qui leur est profitable. Et il va les occuper dans des choses licites ou illicites. Mais il va faire en sorte que tu vas te détourner de ce qui t'est réellement profitable. Et regardez aujourd'hui, par exemple, les séries télévisées. Hein? Des fois, tu as des séries télévisées, il y a un épisode tous les jours de la semaine. Il y a la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, etc., etc. Et les gens, ils sont prêts à regarder tous les jours, une demi-heure, une série télévisée où c'est toujours la même chose. Elle est divorce de lui, qui se marie avec l'autre, qui divorce de lui, qui se dispute avec lui, qui manipule pour l'héritage. Hein, vous connaissez toutes ces séries débiles qui passent à la télévision. Et regardez le temps que les gens y passent à regarder ce genre de débilité. Et si tu lui dis, tiens, tous les jours, 5 minutes par jour, on va apprendre un verset, tiens, on va ouvrir, ouvrir. Ah non, j'ai pas le temps, je suis occupé. Subhanallah. Hein? Et regardez, je parle des séries, alors peut-être qu'il y en a, ils pensent aux femmes. Même nous les hommes, c'est pareil. Regardez le foot. Vous regardez par exemple, il y en a, c'est les informations. S'il ne se tape pas une demi-heure de journal télévisé tous les jours, presque il ne peut pas dormir. On dirait, il a l'impression qu'il a loupé quelque chose. Alors que dans les informations, on sait tous que c'est que de la désinformation en réalité, c'est que de la manipulation. Celui qui veut être informé, il ne faut pas qu'il regarde la télévision. C'est pas comme ça qu'il va s'informer. Hein? Donc subhanallah, c'est pas des formes d'insouciance. Hein? Et regardez, Shaitan, comment il t'accroche. Hein? Tu as besoin de voir ton prochain épisode. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va divorcer ou elle va pas divorcer? Alors, tu as besoin de savoir, voilà, le match, là, le prochain match, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont gagner à l'extérieur, ils vont perdre. Hein? Par contre, savoir, tiens, qu'est-ce que ça signifie ça dans le Coran, ou qu'est-ce qu'il dit le prophète sur ça, ou la vie de tel compagnon, ça, c'est pas grave. C'est pas une forme d'insouciance, ça. Hein? C'est pas perdre son temps. Regardez, dans notre société, dans nos vies aujourd'hui, comment on perd notre temps dans des choses qui servent à rien? Hein, il y en a, par exemple, tous les jours, ils vont faire des courses dans les supermarchés. Ouais, subhanallah, tu peux pas t'organiser, tu y vas une fois dans le mois et ton temps, tu lui dis, tous les jours, il y va. Il peut perdre 2 heures dans les... Regardez même des femmes, vous les ramenez dans une galerie marchande, elle peut y passer 4 heures, 5 heures. Pourquoi faire ce hein? Et regardez le prophète, alayhi salam, ce qu'il dit. Il dit, « Irtanim khamsan qabla khamsin, hayatuka qabla mautik, wa sihatuka qabla saqamik, wa farahuka qabla shughlik. » Le prophète Assam, il dit, ce qui signifie, profite de cinq choses avant 5 choses. Profite de ta vie avant ta mort. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ton temps libre avant que tu sois occupé. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et profite de ta richesse avant ta pauvreté. Hein? Donc la religion, elle nous encourage à essayer d'utiliser bien notre temps. Également, le prophète, al-Islam, il dit, « Ni'matan marbounun fihima kathirun minan nas as-siha wal-farah. » Le prophète, al-Islam, il dit, il y a deux bienfaits que les gens, dont les gens ne savent pas profiter. C'est quoi? C'est la santé et le temps libre. Hein? Ça, en vérité, c'est un capital. Ça, c'est un grand capital qu'il faut utiliser. Et le prophète, al-Islam, également, il dit, « Ihris ala ma yanfa'uk. » Sois attentif à tout ce qui t'est profitable. Hein? Il ne faut pas être négligent. Et quand je dis profitable, même dans les choses de dunya, t'es jeune, tu galères, tu fais rien, mais va apprendre un métier. Pars à l'étranger, va apprendre l'arabe, je sais pas. Il y a plein de choses profitables à faire. Hein? Et en plus, la vie, ça se construit quand t'es jeune. Ce que tu fais quand t'es jeune, ça va te suivre toute ta vie. Hein? Si aujourd'hui tu galères, t'apprends la plomberie, tu verras que la plomberie, toute ta vie, ça va être une cause par laquelle Allah va te donner ton risque. Tu perds pas ton temps. Hein? Également, parfois on entend des gens, ils disent, ah moi par exemple, je peux pas venir à la mosquée, j'ai pas le temps, pourquoi? Parce que mes enfants ou mon commerce, je suis occupé par ces choses-là. Ce ne sont pas des excuses. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله عز وجل dit, ô ceux qui croyez, que ni vos richesses ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela sont vraiment ceux-là les perdants. Certes, gagne ta vie. C'est même demandé par la religion de gagner ta vie. Et c'est même quelque chose de bien si tu le fais avec la niya, de gagner ta vie pour pratiquer correctement, etc. Nourrir ta famille, quand c'est articulé autour de bonnes intentions. Occupe-toi de tes enfants, mais à chaque chose, tu dois lui donner son haq. À la mosquée, tu dois lui donner son haq. À ta femme, tu dois lui donner son haq. À tes enfants, tu dois lui donner son haq. Mais lorsque tu... Par exemple, même si quelqu'un il viendrait que à la mosquée au point qu'il ne s'occupe pas de ses enfants et pas de sa famille, c'est pas une bonne chose. La notre religion, c'est la religion du juste milieu. Mais alors quelqu'un qui te dit il vient pas à la mosquée ou il s'intéresse, il n'a pas le temps de prier parce qu'il travaille, subhanallah. C'est quoi comme travail ça? C'est pas un travail ça. Donc j'ai parlé de cette maladie qui est l'insouciance. Et comme je vous l'ai dit dans le cours, dans notre religion, il y a toutes les solutions. Hein? Et donc moi, si je vous parle de cette maladie, il faut que je sois capable aussi de vous parler du médicament. Et le médicament, il existe dans notre religion, par rapport à l'insouciance. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأولئك هم الفاسقون. Alors écoutez ce verset où Allah Azza wa Jalla il dit, ô ceux qui croyez, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Et ça s'appelle en arabe al-muhasaba. La personne, elle se juge, elle fait elle-même ses propres comptes. Craignez Allah et sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Juge-toi en sachant que Allah, tout ce que tu fais, il le sait. Même ce que tu as réussi à cacher à tout le monde, Allah, il le connaît. Ce que tu as oublié, Allah, il ne l'a pas oublié. Les péchés que tu fais, que peut-être tu ne sais pas que c'est des péchés, Allah, il les a enregistrés. Hein? Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, l'insouciance. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes, à savoir qu'ils ont oublié eux-mêmes ce qui était profitable pour eux. Ceux-là sont vraiment les pervers. Donc dans ce verset-là, Allah nous parle de l'insouciance et nous donne la solution, c'est quoi? C'est le muhasaba, le fait de se remettre en question et de se juger soi-même. Chacun, il se juge lui-même. C'est pas juger les autres. Chacun, il se juge lui-même, parce que chacun, il doit sauver son âme. Et chacun, il a ses faiblesses et ses forces. Et cette muhasaba, elle est connue. Regardez ce que Omar ibn al-Khattab il dit, radiyallahu anhu, il a une parole célèbre où il dit: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaykum fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Il dit radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, jugez-vous vous-même avant qu'on vous juge. Pesez vos actions avant qu'on vous les pèse, car il sera plus facile pour vous de les peser aujourd'hui plutôt que d'attendre qu'on vous les pèse demain, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. C'est-à-dire que celui qui se juge tous les jours, il se prépare au jugement, au jour du jugement dernier. Alors que celui qui se remet jamais en question, celui-là, le jour où ça va lui tomber dessus, ça va lui faire tout drôle, comme on dit. Ça va lui faire mal. Alors que celui qui se prépare, à ce jugement, alors ça veut dire que lui, il va réussir à sortir de cette insouciance. Hein? Et d'ailleurs, c'est une forme d'intelligence. Dans un hadith qui ne fait pas l'unanimité, certains ont dit qu'il était faible, mais ceux qui ont dit qu'il était faible, ils ont dit « Al-hadith da'if wa ma'nahu sahih ». Le hadith est faible, mais le sens est authentique. Donc c'est pour ça que je le cite, mais je ne l'attribue pas au prophète. Il est dit « Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut ». Celui qui est intelligent, c'est qui ? C'est celui qui se remet en question et qui œuvre pour sa vie après sa mort. Voilà, c'est une forme d'intelligence que de te remettre en question et de te préparer au jour où on va te juger. Donc cette muhasaba, il faut que tu te projettes comme si tu étais devant Allah Azza wa Jal et que tu sais qu'il va te juger et que tu sais que Allah il sait tout de toi. Hein? C'est comme ça que tu dois faire. Et selon l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, fi Madarij al-Salikin, dans Bab al-Muhasaba, il ramène trois fondements al-Muhasaba. Trois règles. La première, celui qui veut se juger, c'est quoi? Il dit, médite sur les bienfaits d'Allah et compare-les à tes œuvres. Regarde tout ce que Allah il a fait pour toi, tout en sachant que, in ta'uddu ni'matallah la tahsuha. Si vous cherchez à dénombrer les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pourrez pas. Mais essaie juste de te rendre compte tout ce qu'Allah il a fait pour toi. Et regarde-toi ce que tu fais. Ça, c'est la première chose. Pour savoir qu'en fait, tu ne fais rien par rapport à ce qu'Allah t'a donné. Le deuxième fondement, regarde tous les devoirs et les obligations que tu as envers Allah et envers les gens. Commencez par tes proches, tes parents. Tes frères et sœurs, ta femme, tes enfants, tes voisins, tes co-religionnaires, les animaux, les non-musulmans, ils ont tous des droits sur toi. Hein? Regarde, donc tous les devoirs, les obligations que tu as envers Allah, puis envers les gens, regarde ce que tu donnes et regarde ce que tu dois. Est-ce que tu verras que si tu regardes tout ce que Allah il a mis comme droit que tu dois donner aux gens, tu verras que tu es défaillant. Et nous sommes tous défaillants. Le troisième fondement, sache que tout acte d'obéissance par lequel tu te réjouis n'est pas en ta faveur. Et tout acte de désobéissance par lequel tu te moques de ton frère se retournera contre toi. Alors je répète, le troisième fondement. Quand tu te remets en question, sache que chaque chose, chaque acte d'obéissance par lequel tu te réjouis, ça veut dire que tu es content, alors il n'est pas en ta faveur. Et je vais expliquer pourquoi. Et chaque acte de désobéissance par lequel tu te moques de ton frère, ça va se retourner contre toi. Alors, je vais reprendre fondement par fondement et je vais essayer d'expliquer et qu'on se rende compte de tout ce que ça va nous apporter. Le premier fondement, c'est quoi? Je l'ai dit il y a 2 minutes. Quelqu'un sait? Non? المحاسبة ولكن يعني الأصل الأول في المحاسبة voilà médite les bienfaits que tu as fait et compare-les médite les bienfaits d'Allah sur toi et compare-les avec ce que tu as fait, d'accord? Donc si tu fais ça, tu vas savoir que, et c'est une chose très importante, que si Allah ne te pardonne pas, tu ne pourras pas échapper à l'enfer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: toute personne qui rentrera au paradis, elle ne rentrera au paradis que par la miséricorde d'Allah. Et Aïcha radiallahu anha, quand elle a entendu ça, elle a dit même toi au prophète, et il a dit même moi. Allahu Akbar. Hein? Parce que quand tu vois tout ce que Allah te donne, tu vois que toi ce que tu fais en retour, c'est rien. Donc si Allah ne te fait pas miséricorde, tu n'entreras pas au paradis. Et ça, c'est une formidable chose pour se dégonfler, quand tu penses à ça. Hein? Également, si tu sais et tu médites tout ce que Allah t'a donné et que tu médites ce que tu fais toi, alors tu vas comprendre que chaque fois qu'Allah te donne quelque chose, c'est une faveur, mais à chaque fois qu'il t'arrive un mal, c'est une justice. Alors regardez le compagnon qui a été amputé d'une jambe et qui a perdu un enfant le même jour. Quand on est venu le voir et on lui a annoncé, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit: Allah, tu m'as donné 2 enfants, alhamdulillah pour celui que t'as pris, alhamdulillah pour celui que tu m'as laissé. tu m'avais donné deux jambes, alhamdulillah pour celle que tu as prise et alhamdulillah pour celle que tu m'as laissée. Lui, il avait compris ça. Chaque chose que tu as, même si demain tu as un enfant qui meurt, Allah te l'a pris, c'est une justice. Il ne t'appartenait pas, c'est Allah qui te l'a donné. Hein? Donc regardez, celui qui arrive à comprendre ce fondement-là dans le muhasaba, ça va lui être très utile dans sa vie de tous les jours. Le deuxième fondement, j'ai dit, dans le muhasaba, c'est quoi? C'est regarde tous les devoirs que tu as envers Allah et envers les gens. Médite. Regarde ce que tu donnes et regarde ce que tu dois. Et donc si tu as ça en tête lorsque tu fais la muhasaba, qu'est-ce que ça va te faire ça? Ça va faire que ça va te donner du nashat. Tu vas savoir que tu es défaillant et que tu as beaucoup à faire. Notamment envers Allah et envers les gens. Que tu dois les conseiller, que tu dois patienter, que tu dois les aimer, que tu dois les respecter. Hein? Et tout ça, ça va te donner beaucoup d'énergie et ça va faire en sorte que avoir un effet positif sur toi. Hein? Et regardez, il y avait quelqu'un qui disait, moi lorsque quelqu'un il est injuste envers moi, la première chose que je me dis peut-être que moi je ne lui ai pas donné ses droits. Et que si je lui avais donné ses droits, alors il ne serait pas comporté avec moi comme ça. Peut-être que je ne l'ai pas aimé, peut-être que quand il m'a dit ça, alors que je ne lui ai pas souri, peut-être qu'il méritait un conseil, je ne lui ai pas donné. Hein? Regardez, subhanallah, comment il pensait celui-là. Et donc, le troisième fondement, qui est donc chaque acte que tu fais par lequel tu te réjouis n'est pas en ta faveur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que à chaque fois que tu fais un acte d'obéissance, il ne faut pas que tu te réjouisses. Et d'ailleurs, regardez, quand on fait la prière et qu'on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, qu'est-ce qu'on dit tout de suite derrière? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On demande pardon à Allah. Pourquoi? Parce que jamais on pourra prier comme il sied à Allah. Et qu'en plus, même nos prières, forcément, il y aura des manques. Hein, il y a des moments où on n'est pas concentré. Il y a des choses qu'on n'a pas bien faites, etc. Et donc, quand tu termines ta prière, qu'est-ce que tu fais? La première chose, tu demandes pardon à Allah. Wabillahi alaykoum. Est-ce que celui qui demande pardon à Allah, il est dans une situation où il est fier de ce qu'il vient de faire? Hein? Non. Regardez, quand tu fais les ablutions, et que tu as terminé les ablutions, tu t'es purifié. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu fais la shahada, et tu dis, Allahumma ja'alni mina tawwabin wa ja'alni mina al-mutatahhirin. Pareil. Regardez le jour de Arafat. Allah dans le Coran, il dit ce qui signifie pour les gens de Arafat, il leur dit déferlez par là où les gens déferlent et demandez pardon à Allah. Hein? Donc il y a quelque chose à tirer de tout ça. C'est que quand tu fais des choses bien dans la religion, tu dois avoir conscience que si tu l'as fait, c'est simplement que Allah t'en a permis. Et tu dois avoir conscience que ça a des manques. Donc tu dois être humble. Hein? Ça doit te pousser à être humble. Donc le troisième fondement, tout acte de réjouissance par lequel tu te réjouis n'est pas en ta faveur, si tu comprends ça quand tu fais la muhasaba, ça va te pousser à être humble et te rendre compte que des fois tu fais des choses tafrah alors que tu ne devrais pas. Hein? Et regardez aussi, lorsque Allah dans le Coran, il parle des vertueux, des patients, des tout ce que vous voulez, il termine en disant quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? « Wal mustaghfirina bil ashar » Ils demandaient pardon à l'aube. Ces gens-là dont Allah il a vanté la piété dans le Coran, les véridiques, les pieux, etc. C'est quoi leur particularité? C'est qu'avant la prière du Fajr, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent pardon à Allah. Regardez, je vous cite une parole d'un célèbre qui disait « Je préfère me réveiller le matin avec le regret. » Il préfère se réveiller le matin pour aller faire le fajr avec le regret de pas avoir trouvé la force de faire qiyam al-lil plutôt que de se réveiller pour aller faire le fajr avec la satisfaction d'avoir prié deux tiers dans la nuit ou un tiers dans la nuit. Vous avez compris? Parce que lui, il savait que lorsqu'il fait quelque chose, s'il ressent la satisfaction, alors il n'est pas dans la piété. Hein? Il n'est pas dans l'humilité. C'est wadih? Alors maintenant, l'histoire de celui qui se moque d'un péché de son frère, ça se retourne contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains, ils ont cité un hadith, ils ont dit que celui qui fait un péché, il ne mourra pas sans avoir lui-même commis ce péché. Mais ce hadith-là, certains ils ont divergé. Alors moi, mes connaissances elles sont limitées, donc je ne me prononce pas. Mais d'autres, ils ont donné une explication, et une autre explication, et elle est notamment approuvée par Ibn Qayyim dans Madarij al-Salikin, qui est que celui qui se moque de son frère qui commet un péché, alors lui, il est proche de l'orgueil. Et en étant proche de l'orgueil, il est proche de la colère d'Allah. Alors que celui qui commet un péché, il est proche de repentir. Avec son repentir, il est proche de la satisfaction d'Allah. Donc par ce biais-là, ça va se retourner contre lui. Parce que lui, il se moque de son frère. Lui, ça se trouve, il va se repentir, Allah, il va lui pardonner. Et toi, en te moquant, Allah, il va te punir pour cet acte d'orgueil. Parce que quand tu vois quelqu'un faire un péché, fais une invocation pour lui, et les anges, ils disent, « Voilà qu'il m'écrit. » Ils te disaient à toi la même chose. Alors, je répète, les trois fondements de l'muhasaba, c'est médite les bienfaits d'Allah, compare-les à tes œuvres. Regarde tous les devoirs et les obligations que tu as envers Allah, puis envers les gens. Et regarde ce que tu donnes et regarde ce que tu dois. Tout acte d'obéissance par lequel tu te réjouis n'est pas en ta faveur, et tout acte de désobéissance par lequel tu te moques de ton frère se retournera contre toi. Hein? Et de là, tu vas en tirer beaucoup de fawaïd, comme j'ai dit. Tu vas en tirer la modestie, l'humilité, le repentir. Et savoir que si Allah ne te pardonne pas, tu ne réussiras pas. Ensuite, concernant la muhasaba, bien évidemment, il faut se poser des questions avant de faire quelque chose. Avant que tu fasses quelque chose, pose-toi des questions, pourquoi tu vas le faire? Est-ce que tu recherches la satisfaction d'Allah? Est-ce que tu recherches la sincérité? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches quelque chose de bien ou quelque chose de mal dans ce que tu vas faire ou dans ce que tu vas dire? Et bien sûr, pose-toi des questions après un acte d'obéissance. Par exemple, tu viens d'accomplir la prière, pose-toi des questions. Est-ce que tu as été sincère? Est-ce que tu as prié comme le prophète, il nous l'a enseigné? Est-ce que tu as conscience que si tu es venu prier, c'est parce que Allah te l'a permis? C'est pas parce que toi tu es intelligent ou parce que tu es pieux. Si tu as prié, c'est parce que Allah te l'a permis et il t'a guidé, il t'a fait rentrer dans sa miséricorde. Également, lorsque tu pries, est-ce que tu as conscience que ta prière elle a des manques? Est-ce que, par exemple, lorsque tu as commis un acte d'obéissance tel que la prière, est-ce que tu es venu avec l'envie de le faire correctement? Hein? Donc tout ça, c'est des choses que tu dois avoir dans ta tête. Et donc, je terminerai avec ça. Sachez que la muhasaba, pour celui qui veut la réussir, elle a des conditions. La première condition, c'est quoi? C'est la science. Il faut avoir des connaissances. Plus tu auras des connaissances dans la religion, plus ta muhasaba, elle sera efficace. En effet, si tu es fumeur et tu ne sais pas que la cigarette elle est interdite, même si tu te remets en question, tu ne seras jamais poussé à délaisser la cigarette. Si par exemple tous les matins tu te réveilles à 11h pour faire le fajr, en pensant que tu as jusqu'à l'heure du dhuhr pour l'accomplir, ce qui n'est pas vrai, tu as jusque l'heure du shuruq pour l'accomplir, alors tu ne te remettras jamais en question et tu ne seras jamais poussé à te lever au fajr pour l'accomplir à l'heure. Hein, donc il faut du ilm pour accomplir la muhasaba. L'ilm qui te permet de faire la différence entre le halal et le haram, l'ilm qui te permet de faire la différence entre le bid'a et le sunnah, et l'ilm qui te permet de faire la différence aussi entre la fitna et le khayr. Il y a par exemple des gens, ils pensent que parce que Allah lui a donné beaucoup d'argent, Allah lui a donné beaucoup d'enfants, alors ils pensent qu'il est parmi les gens que Allah il a honoré. Or peut-être que Allah lui a donné ses bienfaits uniquement pour lui donner ses récompenses ici-bas et pour mieux le châtier le jour du jugement dernier, dans le dollar. Et d'autres personnes pensent que parce qu'il est pauvre, alors ça veut dire qu'Allah il ne l'aime pas. Peut-être qu'Allah il l'a laissé dans la pauvreté, mais tous les biens qu'il lui réserve, il les garde pour le jour du jugement dernier, pour sa vie après sa mort. Hein? Et d'ailleurs, c'est ce que ça signifie dans les versets dans Sourate Al-Fajr. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. Dans ces versets, Allah il dit ce qui signifie: et l'être humain, lorsqu'il est éprouvé par son Seigneur et qu'il lui a donné des bienfaits, hein, alors la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ah moi Allah, mon Seigneur, il a été généreux envers moi, il m'a honoré. Et lorsque Allah, il diminue la subsistance d'un autre, il dit, Allah, il m'a avili. Et Allah, il dit non, c'est pas parce que tu es riche que Allah, il t'a élevé par rapport aux autres et qu'il t'aime. Et c'est pas parce que tu es pauvre que Allah ne t'aime pas ou qu'il n'est pas satisfait de toi. Hein, donc il faut du ilm pour celui qui fasse la muhasaba. pour qu'il fasse la différence entre le halal et le haram, la bid'a la sunna et la fitna et le khair. Et la deuxième condition pour le muhasaba, c'est de savoir que l'âme dont nous sommes tous composés est incitatrice au mal. En effet, Allah il dit « Inna nafsa la amaratun bissu » L'âme, Allah dit ce qui signifie « Certes, l'âme est incitatrice au mal. » Donc nous qui sommes des êtres humains et qui sommes constitués d'âmes, on a tous quelque chose en nous qui nous pousse vers le mal. Qui nous pousse plus à être feignant que travailleur, plus à être avare que généreux, plus à être orgueilleux que humble, etc., etc. Comme je l'ai dit dans le verset. Et d'ailleurs, il y a des paroles, beaucoup de paroles de compagnons, de savants sur cette question-là. Il y a un sage qui disait « Man tawahama anna lahu waliyan awla min Allah qallat ma'rifatuhu billah wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. » Hein, ce sage-là, il disait, celui qui pense qu'il peut avoir un meilleur allié que Allah, alors il ne connaît pas Allah. Et celui qui pense qu'il n'a pas un ennemi, que son pire ennemi n'est pas sa propre personne, alors il ne connaît pas son âme. Hein, celui qui pense que son pire ennemi, c'est pas sa propre âme, alors il ne connaît pas son âme. Et donc là, on voit dans cette parole-là, la compréhension de savoir que ton pire ennemi pour toi, c'est toi-même. La deuxième parole, j'ai oublié, ouais, c'est une parole de Ali ibn Abi Talib qui dit « Kun inda Allahi khayra al-nas, wa kun inda nafsi sharra al-nas, wa kun inda nasi rajulam min al-nas. » Ali ibn Abi Talib, il disait « Sois parmi Allah la meilleure des personnes. » C'est-à-dire, tout ce qu'il te demande, fais-le, et tout ce qu'il t'interdit, abstiens-toi-en. Sois pour ton âme la pire des personnes. Ça veut dire tout ce qu'elle te demande, tu lui donnes pas. Et tout ce qu'elle n'aime pas, tu lui donnes. Hein, ton âme, elle aime dormir, elle aime manger, et ben tu diminues. Elle aime parler, tu diminues. Elle aime se vanter, tu te vantes pas. Elle aime pas donner, tu donnes. Et il dit enfin, وَكُنْ عِنْدَ النَّاسِ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ. Sois parmi les gens, une personne parmi les gens, ça veut dire, sois parmi les gens quelqu'un de humble et de modeste. Ne cherche pas à te surélever, ne cherche pas à te rabaisser. Et une autre parole, je crois que c'est de Abdullah ibn Mas'ud, qui disait « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ » Donc il disait, radiyallahu anhu, « Celui à qui Allah il veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Et celui, il lui donne la compréhension de la religion, il fait de lui un ascète, zuhd, c'est-à-dire qu'il fait de lui une personne qui n'est pas attachée par les biens matériels de ce bas monde. Hein? Et enfin, il le rend éclairé sur les défauts de sa propre personne. Hein, donc là encore, ça rejoint ce que j'ai dit pour celui qui veut réussir la muhasaba, c'est qu'il est conscient qu'il a quelque chose en lui qui le pousse vers le mal et qu'il faut qu'il s'éduque. Hein, et qu'il faut qu'il se retienne, et qu'il faut qu'il fasse un travail de purification. Donc voilà, j'en ai terminé. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et vous m'excusez, je ne reste pas avec vous parce que je fais une intervention à Sainte-Geneviève. Ils feront les riches à 7h30. Donc j'ai juste le temps de prendre ma voiture et de foncer là-haut, Inch'Allah.